Bonjour à toutes et à tous, vous l'attendiez avec impatience, c'est le retour de votre podcast préféré. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, nous sommes bien trois. Aujourd'hui, Jérôme Lio, comment allez-vous après tout ce temps ?
Salut Lio, salut Nico, bah, super bien, je suis aussi ravi évidemment de vous retrouver après cette petite pause. Hein. Et donc voilà, en grande forme. Et toi Lio, ça va ?
Ouais, super, salut tous les deux. De mon côté, ça va plutôt pas mal. Je suis content que ce soit la rentrée aussi du rythme académique, du rythme scolaire, parce que là, j'ai vécu les premières vacances avec une petite dont on ne savait pas trop quoi faire. Et là, le rythme est reparti, donc c'est top. Nico ?
De mon côté, ça va bien. C'est un plaisir de vous retrouver. J'ai profité de l'été pour ralentir les activités, lire un peu plus que d'habitude et préparer cette rentrée pour différents projets qui vont rythmer l'année. Donc voilà. Alors, on a eu un afflux d'auditrices et d'auditeurs qui nous ont découvert pendant l'été. Je vais donc vous proposer de refaire un petit tour de présentation. On l'avait fait dans le premier épisode, mais je vous propose de faire ce petit tour de présentation pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore. Jérôme et Lio, mais Jérôme pour commencer.
En quelques mots, j'ai un passé de learning designer dans différents environnements, voilà, associatifs, industriels et autres. Et maintenant, je suis responsable d'une petite équipe d'experts pédagogiques au sein de Sephora, qui est donc un organisme de formation. Voilà dans les grandes lignes.
Ouais, de mon côté, j'ai d'abord été à l'université où j'ai fait de la recherche en didactique de la grammaire pendant un paquet d'années. Puis, je travaillais en innovation pédagogique, toujours à l'université, et j'ai quitté le monde académique il y a 2-3 ans pour passer par le Forum, la SNCB. Et maintenant, je bosse en mission chez MySkillCamp comme Learning Strategy Manager.
Merci. Et donc, de mon côté, je m'appelle Nicolas. Je travaillais 8 ans à l'université où j'ai collaboré avec Lionel au sein de la cellule d'innovation pédagogique numérique. Et aujourd'hui, j'accompagne des organismes de formation, des institutions d'enseignement, ainsi que des actrices et des acteurs de terrain dans des projets d'innovation pédagogique en utilisant une approche de designer, une approche centrée sur les utilisateurs. J'ai aussi une petite newsletter, Learnability, à travers laquelle j'explore toutes les deux semaines les différentes facettes de l'innovation pédagogique et du futur de l'apprentissage. Elle est consultable à l'adresse learnability.news et je vous mettrai le lien en description. Alors, pour les plus fidèles auditrices et auditeurs, celles et ceux qui nous connaissent déjà, on doit vous présenter nos excuses car nous vous avions promis deux épisodes spéciaux durant la période estivale et puis rien. Nada. Ces deux mois ont finalement été plus chargés que prévu pour chacun d'entre nous et nous avons concentré nos efforts sur la préparation de cette deuxième saison du podcast, plus que sur l'enregistrement de ces épisodes spéciaux. On vous a prévu pas mal de surprises, Jérôme vous en dira plus dans un instant, mais on revient donc avec l'esprit frais, de nouvelles idées et des nouveaux concepts. Avant ça, on reprend aussi les bonnes habitudes. On commence par votre actualité, Lionel, Jérôme, une anecdote ou un sujet à nous partager. Lionel, pour commencer.
Deux petites choses. Une avec un lien avec le monde de la formation, un petit peu. C'est-à-dire que j'approche de la préparation d'ateliers pour le moment de design thinking. Donc c'est un peu, je me documente pas mal là-dessus. C'est en lien avec une reco que je ferai tout à l'heure. Et donc écoutez jusqu'au bout. À la fin, il y a des recos pour ceux qui nous rejoignent en cours. Et l'autre, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est que je me suis décidé à passer au vélo électrique plutôt qu'à la voiture pour tous les trajets du quotidien.
Déjà un retour d'expérience ?
Un retour d'expérience
sur le vélo électrique et sur les premiers trajets. C'est juste une décision, pas encore.
On n'en est qu'à la décision.
C'est beau, les résolutions de la rentrée. Hein,
d'ici que cet épisode paraisse, je serais allé en boutique et sans doute commander l'engin, mais voilà.
Et donc, les bonnes résolutions de la rentrée, et puis dès que la température descend sous des 10 degrés, le 1er novembre, tout ça, on les aborde.
Mais non, il existe des petites... pour les transformer en calèche ou des trucs comme ça.
Mais sinon, il y a des voitures électriques, Lio, sinon.
Personne n'a jamais parlé de ça.
Jérôme, de ton côté
Moi, j'ai déjà adopté le vélo électrique. Hein. Donc, c'était une bonne résolution de l'année passée que je tiens bien aussi et que les enfants ont adopté aussi. Donc, ça aide aussi à l'ancrer. De mon côté, une reco, enfin une anecdote, quelque chose à partager plus au niveau professionnel. Chaque année sort l'étude un peu de Jane Hart, hein, le top 100 des learning tools. C'est un peu un recensement des outils d'apprentissage les plus plébiscités. Et donc, cette année, c'est sorti pour la 16e édition. Et donc, on mettra le lien aussi dans la description. Mais donc, je vous invite à regarder. C'est toujours intéressant de voir les outils les plus utilisés pour la formation. Et donc, il y a un axe aussi sur l'aspect education, plus enseignement, mais aussi workplace et même personal. Donc, c'est assez intéressant de voir les différents outils que les gens mentionnent pour leur développement de compétences. Et donc, aller voir ne fût-ce que le top 10, c'est assez intéressant, en sachant que le premier vraiment outil, on va dire, lié directement à la formation, est 31e. Donc, ça en donne aussi pas mal d'infos. Le premier...
Et on ne vous dira pas lequel c'est.
Allez voir par vous-même. Et sur le site aussi, il y a une analyse de Jane Hart elle-même avec les 10 points d'analyse aussi. Donc, c'est assez... C'est toujours intéressant, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, je prends toujours un peu de temps pour analyser ça parce que c'est assez révélateur aussi du monde de la formation. Donc, voilà, le top 100 des learning tools de Jane Hart.
Vas-y, une recommandation.
C'est presque. Presque. Et toi, Nico ?
De mon côté, je voulais vous partager une petite analyse. En fait, ces dernières semaines, cet été même, j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à mon positionnement en termes de création de contenu, que ce soit pour la newsletter dont je parlais, le livre que je vais écrire, dont je vous parlais dans le dernier épisode, ou même un peu sur ce podcast. Et donc, pour faire ça, j'ai fait une sorte d'analyse avec Manon, qui assure aussi le montage de ce podcast. On a fait un recensement de pas mal de sources de contenu dans le domaine de l'enseignement et de la formation, les podcasts, les newsletters, les chaînes YouTube, les sites Internet. On a aussi pris du temps sur Amazon pour analyser les livres dans le domaine. Et un constat qui ressort, c'est qu'il y a déjà beaucoup, mais vraiment beaucoup de contenu produit dans notre domaine. On peut apprendre à se former, à se développer professionnellement sur des sujets pointus ou rester au fait de l'actualité. Tout ça gratuitement, voire pour quelques dizaines d'euros. Et ce qui manque de notre point de vue, du moins c'était notre analyse, sont des articles de point de vue, des opinions plutôt personnelles sur des sujets liés à la formation, des partages d'expériences. Il y en a un peu plus sur Twitter, mais peu de partages d'expériences. Et donc, sur le fond aussi, on a remarqué que les dimensions stratégiques sont souvent moins abordées. On reste souvent dans la formation au niveau de la formatrice, du formateur, de l'enseignant, plus que de l'institution d'enseignement, de formation, de l'entreprise. Donc voilà, c'était un peu un constat, je voulais vous le partager et aussi avoir votre avis. C'est d'une part savoir si c'est un truc que vous constatez et par ailleurs, est-ce que vous, il y a, au-delà de notre podcast évidemment, est-ce qu'il y a une ressource que vous consultez régulièrement pour être informé en matière d'éducation, d'enseignement, de formation? Est-ce que vous avez une ressource fétiche que vous consultez régulièrement?
Je suis assez d'accord avec votre constat. J'ai l'impression que ce qu'on trouve le plus, c'est ce qui est le plus simple à prendre en main. Donc, ce qu'il n'y a pas, le retour d'expérience, plus de la documentation sur l'institution, c'est peut-être quelque chose qui demande une plus grosse démarche réflexive de la part de celui qui le reçoit. Et du coup, c'est peut-être moins de succès pour ça. Je sais pas trop, mais c'est chouette d'entendre en tout cas qu'on se démarque un petit peu par notre approche. Je trouve ça cool parce que on n'avait pas mesuré ça avant. Donc ça confirme un chouette positionnement. Donc cool.
T'as une ressource, particulière.
Mais oui, tu me prends un petit peu de cours, mais je pensais à un podcast que j'ai découvert. Je crois que c'est super connu, mais que j'ai découvert assez récemment. C'est plus sur le monde HR, mais c'est le podcast de Josh Bersin Company. Ouais. Et comme souvent, la formation, la plupart du temps, est gérée par le département HR, il y a plein d'épisodes qui sont vachement intéressants. S'ils ne durent pas trop longtemps, on est sur du 20 minutes en moyenne. Et, il est accessible partout. Moi, j'écoute depuis Spotify. Donc, de Josh Bersin Company, vous trouverez sûrement des sujets qui qui vous inspireront. Le dernier en date, c'était The HR, c'est en anglais, The HR Tech Market is Going Crazy, What to Look For in, in 2023. Et donc il y en a plein qui sont plus HR, mais il y en a pas mal qui concernent aussi la formation, quoi. Donc ça, et comment intégrer la formation dans l'entreprise.
Nickel, merci. Voilà. Jérôme a un avis là-dessus?
Oui, mais ça m'étonne pas vraiment non plus. Et je pense que c'est intéressant d'avoir fait l'analyse un peu plus objective sur peut-être un ressenti ou une tendance qu'on aurait pu ressentir. Cette approche fort centrée contenu, ben oui, c'est vrai qu'on les retrouve face. Allez, c'est un peu lié à la culture aussi de l'apprentissage dans lequel on est, universitaire aussi, de l'enseignement qui est fort aussi centré sur le contenu, hein, et donc qui se ressent un peu aussi dans le milieu corporate. Mais voilà, ce partage en fait d'expérience, moi je pense que c'est très très riche, très valorisant, mais c'est moins, comment dire, directement, voilà, mesurable ou calculable. Voilà, le contenu on l'a, c'est concret, on le consomme, t'as le partage d'expérience, ben on sait pas à l'avance si on va pouvoir en retirer quelque chose et comment, quoi, hein. Et donc c'est vrai que c'est peut-être un peu moins palpable. Et donc ça a moins de succès, mais moi je crois très fort en ces partages d'expériences aussi, d'avis, de ressources, hein. Et ici on en a déjà balancé depuis le début du podcast quelques-unes sans le vouloir, mais donc voilà, moi je crois fort en ça. Par rapport à la ressource, ben, moi je passe quand même pas mal de temps sur LinkedIn aussi pour voir justement un peu différents partages de ressources, et en dehors d'outils en tant que tel aussi, essayer d'organiser, et voilà, quelques fois par an, on a un petit groupe de personnes et on se réunit 3-4 fois par an, sans sujet spécifique, sans que ce soit formel avec un agenda, mais simplement, voilà, discuter un peu de ce qui nous a occupé, de voilà, partager ces expériences-là, et on verra ce qu'on en retire aussi. Et donc, je trouve ça très riche pour les personnes qui reçoivent, mais aussi pour les personnes qui les partagent, parce qu'en partageant son expérience, ben, on se fait une auto-réflexion aussi, et on essaie de structurer aussi, de comprendre ce qui s'est passé. Donc même pour la personne qui partage son expérience, ça peut être très riche de le faire aussi. Donc voilà, je trouve ça aussi intéressant, voilà, de partager de cette manière, de cette manière-là.
Peut-être un futur épisode sur la formation sans veille informationnelle dans le domaine de la formation.
Voilà.
À voir. Et avant de vous présenter cet épisode 6, cet épisode un peu spécial, parlons de la saison 2 en quelques mots. Jérôme, est-ce que tu nous briefes les auditrices et auditeurs sur cette saison 2 ?
Non.
Merci.
Donc pour la saison 2, on vous promettra d'être aussi drôle que pour la saison 1, en tout cas, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc pour la saison 2, effectivement, on a planché un peu pendant cet été pour voir qu'est-ce qu'on pourrait proposer, qu'est-ce qu'on avait encore envie de faire pour la saison 2. Et donc bah, on va voilà, garder évidemment le principe de la formation sans, en vous balançant encore voilà, des recommandations, en partageant nos avis, nos expériences. On va essayer vraiment, et on s'y engage avec toute mon équipe, sur voilà, s'en tenir à 45 minutes, une heure grand maximum aussi.
Et excepté cet épisode introductif, hein, qui sort un petit peu du lot et qui peut se permettre...
On va essayer de le tenir. On va essayer de le tenir.
Voilà, les petites nouveautés aussi des concepts, c'est que dans les différents épisodes, ben, on aura de temps en temps aussi un invité. On va vous demander aussi de vous-même être plus impliqué en donnant des témoignages, des idées aussi de ressources. Donc voilà, ça c'est un peu...
La saison 2 plus participative.
Plus participative, plus interactive sur la saison 2 aussi. Et au niveau des thématiques, n'hésitez pas, hein, comme depuis le début, mais à nous partager aussi via le hashtag CQLP vos idées de thématiques qu'on pourrait aborder ou autres. Donc voilà, et on aura aussi quelques invités et petit teasing aussi sur une thématique... qui arrivera et qui est dans les cartons, c'est la formation sans gamification, notamment, qu'on a dans les cartons. Donc voilà, on en parle beaucoup de la gamification, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on s'est formé sans ? Quelles sont nos expériences là-dessus ? C'est un peu ce dont on va discuter.
Et voilà. On bosse aussi sur un vrai site web pour cette expérience collective et interactive. Lionel, quelques mots sur le site ?
Oui, bien sûr, un site. Donc pour le moment, si vous allez sur cqlp.xyz, ça existe vraiment. Donc vous nous trouvez déjà. C'est la page, on emprunte la page de l'hébergeur des épisodes, c'est-à-dire de OSHA. C'est très propre, mais c'est pas trop à notre image. Donc, le nouveau site, il va paraître d'ici fin septembre. Vous y trouverez une présentation de vos animateurs préférés, la présentation de chaque épisode, la possibilité de les écouter de là, sur une page qui nous ressemble un petit peu plus, donc qu'on aura construite en concertation. Et voilà, j'ai envie de dire c'est tout, mais c'est l'essentiel parce que on va pas y mettre. C'est pas le lieu d'y poster des articles, c'est pas le lieu d'y poster d'autres ressources. Donc c'est vraiment, on se concentre autour du podcast, de ceux qui y sont présents, donc les invités et nous-mêmes, ils seront présentés évidemment aussi. Et une page par épisode qui décrira tous les liens, enfin qui reprendra tous les liens utiles et tous les éléments qu'on vous partage et que vous entendez avant de pouvoir les lire.
Du lourd donc pour cette deuxième saison. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à partager le podcast aux personnes autour de vous qui peuvent être intéressées par nos réflexions, nos expériences et les sujets qui sont abordés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, épisode un peu spécial, concept un peu spécial. On va pas faire un seul épisode, mais 4 épisodes en un. Carrément.
Est-ce que tout le monde a bien 2h30?
Tout ça dans un timing très serré. Si vous vous souvenez de la saison 1, et si pas, allez l'écouter ou même la réécouter. Nous avons interrogé 5 acteurs de la formation au salon Learning Technologies à Paris en mai dernier. Vous les avez entendus dans les épisodes 6 et 7, si je ne me trompe pas, dans lesquels ils ont donné leur avis sur des ingrédients que nous avions sélectionnés. C'était le rôle du formateur et la place de l'innovation en formation. Nous avions terminé chacune de ces discussions en leur demandant quel était l'ingrédient indispensable en formation. Et aujourd'hui, on va discuter à partir de leurs ingrédients. Vous n'avez pas entendu cette question. Aujourd'hui, on va vous révéler cette question. Et donc concrètement, je passerai à chaque fois l'extrait d'un intervenant et j'ai quelques questions pour vous, Lio et Jérôme, pour qu'on discute à 3 à partir de leurs réponses. Évidemment, donc je participerai à la discussion et on terminera chaque intervention par un tour de table pour savoir s'il est possible ou non de former sans cet ingrédient, selon eux, indispensable. Les gars, c'est clair pour vous ?
Parfait. Super clair. Et encore merci à ces intervenants aussi de nous avoir donné leur avis.
On ne remerciera jamais assez.
Super cool.
Et je pense que c'est une pratique qu'on va poursuivre, c'est-à-dire que si l'occasion se présente, on va encore essayer de rendre les épisodes encore plus participatifs. Notamment avec des interviews de ce type-là.
Voilà, alors attention, petite contrainte, on se donne 8 minutes par sujet, histoire de ne pas ou de ne plus partir dans de trop longs échanges. Vous entendrez un petit son à la fin des 8 minutes et on devra clore le débat à ce moment-là. On va tout de suite commencer par le premier intervenant, c'est Kevin Tillier de MySkillCamp qui nous donne son ingrédient indispensable en formation.
La scénarisation. Parce que si on ne sait pas où on va, bah, il n'y a pas de structure ni de fil conducteur.
Simple, précis. Mais est-ce que vous, Lio et Jérôme, vous formez toujours avec une structure, un fil conducteur, une scénarisation ?
Oui, en tout cas, on essaye de tendre. Alors, ça dépend évidemment de ce qu'on met derrière scénarisation, hein, parce que tu dis, voilà, scénarisation, fil conducteur ou autre. Je pense que, comme Kevin disait, c'est important de savoir où on va. Maintenant, comment on va ? Ça, moi, en tout cas, personnellement, j'essaie toujours d'avoir une petite souplesse ou une petite flexibilité aussi. Donc, savoir, OK, quelle est la destination, vers quoi on veut aller, prévoir un chemin, mais pendant la formation aussi, pouvoir me dire, OK, ben, on change un peu de chemin ou on prend un petit raccourci ou un petit détour s'il faut aussi. Donc, voilà, une scénarisation, c'est important de savoir où on va, mais quand même avoir quelque chose de pas trop rigide non plus, j'essaie de vraiment toujours avoir une petite marge de manœuvre aussi pour mettre ça en place, et faire régulièrement aussi des allers-retours, même avant que la formation ait lieu, dans sa conception, aller vers la scénarisation, mais des fois, dans la scénarisation, on se rend compte que voilà, l'objectif ou la destination doit être un peu retravaillée ou reprécisée, donc constamment faire des allers-retours aussi, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un alignement vraiment entre, voilà, entre la destination et le moyen où on va aller, donc fil conducteur d'office tout le temps, quoi.
J'étais en train de réfléchir à une autre réalité que je n'avais pas anticipée, ça m'inspire un petit peu la scénarisation à l'extrême. C'était quelque part quand j'étais aux études, en finalité didactique, on avait des stages. Et on nous demandait pendant ces stages de faire des déroulés pédagogiques dans un canevas assez strict. Ce n'est pas une réelle scénarisation, mais c'est quand même un genre de scénarisation de leçons qui vont, ça va se donner face à des élèves, donc c'est un autre contexte aussi. Mais une fois qu'on est en stage, on se rend compte à quel point c'est un procédé hyper important et à la fois très, très artificiel et contraignant. Plus c'est scénarisé, plus on s'enferme dans cette scénarisation avec une capacité moindre à rebondir, à être un peu au taquet et à laisser la place à l'autre. Et pour autant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis pro-scénarisation, mais je ne suis pas pour que ce soit une contrainte. C'est-à-dire que je trouve qu'on doit scénariser, mais on doit laisser une grande place à l'improvisation une fois que le moment est là, quoi. Donc, comme le dit Jérôme, c'est, on sait où on va, on a anticipé un petit peu comment y arriver. Maintenant, on prend un petit peu pas forcément le chemin qui était tout tracé pour ce faire. Et puis, il y a des tas de travaux, genre des travaux pratiques, où il vaut mieux ne pas scénariser et plutôt partir de... ou des activités un peu plus techniques, peut-être, ne pas scénariser et partir de ce qui surgit. Et donc, c'est un petit peu une capacité à rebondir qui est pas contraire à la scénarisation, mais qui est plus importante, je trouve, qu'un canevas strict dans plusieurs situations, quoi.
C'est amusant parce que en vous entendant, j'ai l'impression quand même que je scénarise beaucoup plus les ateliers ou les formations que je peux faire. Et en même temps, je scénarise pour laisser beaucoup de liberté. Donc, t'en parlais tout à l'heure. Je fais aussi des ateliers de design thinking, d'intelligence collective, et donc beaucoup émanent des participants et participantes. Néanmoins, les activités sont quand même rythmées, scénarisées, avec des temps qui vont être contraints aussi pour atteindre les objectifs. Et donc, certes, se laisser une liberté, mais moi, pour moi, cette scénarisation, c'est quand même la base. Et j'en parle aussi dans l'épisode à propos des pauses, vraiment scénariser parfois au maximum pour après se laisser de la liberté.
Oui, mais en fait, moi, j'utilise vraiment la scénarisation aussi pour challenger la destination ou l'objectif. Hein. Et donc, c'est dire, OK, on va scénariser. Donc, dans la scénarisation, il y a plein de choix, évidemment, qui sont possibles. Mais OK, ben, ces choix-là, est-ce qu'on fait un choix A ou un choix B? Mais peut-être qu'on ne sait pas parce que l'objectif ou la destination n'est pas suffisamment clair ou qu'on doit la préciser encore plus, quoi. Donc, je parlais tantôt d'aller-retour. Et donc, moi, j'utilise vraiment aussi cette scénarisation pour bien préciser la destination, quoi.
Comment est-ce que vous scénarisez vos formations ou accompagnez à la scénarisation quand vous travaillez avec des formateurs?
Moi, j'allais un petit peu. Moi, je travaille pas avec des formateurs, donc je pourrais pas répondre sur cette dimension-là. Mais c'est vrai que j'allais rebondir de cette manière-là aussi en me disant il y a plusieurs niveaux de scénarisation. Donc, on peut avoir un très haut niveau où on sépare en gros blocs, en caricaturant un petit peu, c'est intro, corps et puis. Conclusion, et après on peut affiner, qu'est-ce qu'on va faire dans l'intro, comment est-ce qu'on la scinde, qu'est-ce qu'on va faire dans chaque élément de scindé, donc on peut granulariser à l'extrême. Dans ma pratique antérieure et encore un peu actuelle, c'est plutôt vers ça qu'on va, donc c'est faire des grains les plus petits possibles pour vraiment tout considérer et veiller à ce que tous les objectifs soient rencontrés de la meilleure manière qui soit. Et maintenant, ça, c'est un travail in abstracto et il faut voir ce que ça donne une fois matérialisé. Toi, Jérôme, tu es peut-être plus en contact avec les formateurs.
Oui, plus en contact avec effectivement des formateurs. Et chez nous, pour l'instant, chez Sephora, on a un format unique, donc ça balise un peu. Donc dans le contexte, on a une partie asynchrone, une partie synchrone et encore une partie asynchrone aussi. Donc... Donc voilà, ça balise un peu la scénarisation, mais même dans ces différents grands blocs, on sait faire pas mal de choses différentes aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est de travailler un peu de manière chronologique hein, et de dire, OK, quelles activités on choisit. Et c'est pour ça que je disais, moi, je travaille beaucoup en aller-retour, dire, OK, on va choisir cette activité-là, mais pourquoi choisir celle-là? Est-ce que ça se fait au service de l'objectif ou pas? De l'objectif ou du contexte de l'apprenant aussi, hein, parce que... Voilà, on parle beaucoup d'objectifs, mais je pense que le contexte, c'est que les ressources et contraintes, que ce soit au niveau temps, au niveau technologique, au niveau logistique ou autre, est aussi une donnée dans le choix de la scénarisation. Donc voilà, c'est vraiment travailler par bloc et puis affiner au fur et à mesure, mais avec beaucoup, beaucoup d'aller-retour vers la phase d'analyse.
À ce propos-là, de mon côté, ce que j'utilise aussi pas mal dans cette scénarisation, ce sont les travaux de Diana Lauriard, dont est issue une technique de scénarisation, une méthodologie de scénarisation qui s'appelle ABC Learning Design. Et sa force, de mon point de vue, ou son intérêt, c'est qu'elle est très centrée apprenant-apprenante. On va vraiment scénariser en fonction des activités d'apprentissage plutôt qu'en fonction des méthodes pédagogiques. Parce que souvent, le défaut qu'on peut avoir en tant que formatrice ou formateur, c'est de varier les méthodes pédagogiques, parfois de varier les médias pédagogiques. On va dire, je fais un PowerPoint, puis je donne une vidéo, puis ensuite, je fais une explication juste sans support de vive voix. Et en fait, on est toujours dans de l'acquisition. C'est-à-dire que les participants, ils vont acquérir du savoir et ça ne change pas vraiment d'activité, d'apprentissage de leur côté. Donc, en scénarisant avec ABC Learning Design, on a cette vision apprenant et on arrive à se dire ok, je fais varier aussi les activités du côté de l'apprenant et pas juste les médias ou les méthodes pédagogiques. On arrive peu à peu au bout des 8 minutes, juste après le gong qui va arriver dans un instant. Je vais vous poser la question de est-ce qu'on peut former sans scénariser, et au moment du gong je vais vous proposer de répondre très rapidement à la question.
Non, ça doit être une étape préalable. Maintenant, il ne faut pas s'y tenir coûte que coûte à ce qui est anticipé, mais ça doit être une étape préalable.
Jérôme ?
Non, sans aller trop loin dans la scénarisation, et ne pas hésiter aussi d'impliquer éventuellement l'apprenant dans la scénarisation du trajet de formation.
Pour moi, c'est la même chose, on ne peut pas former sans scénariser. Et d'ailleurs, recommandation en plus, on l'avait déjà donné dans un épisode précédent. N'hésitez pas à utiliser un outil qui s'appelle Modulo. Cherchez sur les moteurs de recherche, on vous mettra ça aussi en description. Modulo qui va vous aider à scénariser une session de formation ou un atelier. On passe à la deuxième intervention, au deuxième intervenant, Marc Coudray d'Open Classroom, qui nous donne également son ingrédient essentiel en formation.
L'objectif de l'apprenant, qu'est-ce qu'il souhaite faire avec cette formation ?
Alors, est-ce qu'il vaut mieux former en fonction de l'objectif de l'apprenant ou en fonction de son objectif ou de ses objectifs à atteindre en tant que formateur ? Parce que, est-ce que l'apprenant est le mieux placé pour dire ce qu'il a besoin d'apprendre ? Jérôme ?
Je serais assez nuancé, c'est pas noir ou blanc sur cette réponse-là. Alors en fonction de l'objectif pur du formateur, j'aurais plutôt tendance à dire non. De l'objectif de l'apprenant, oui, mais il n'en est pas toujours non plus conscient des compétences qu'il doit acquérir ou autre. Donc ça peut être de l'apprenant ou de son environnement direct aussi. Donc oui, idéalement, s'il est vraiment conscient de ce qu'il veut faire par rapport à sa formation et son développement de compétences. Et nous, par exemple, ce qu'on met en place, c'est que pour chaque trajet de formation, on a 2, 3 ou 4 objectifs qui ont été définis. Et donc, on demande au début de formation à l'apprenant de choisir parmi ces objectifs-là, lequel est le plus important pour lui. Et donc, à ce moment-là, le formateur peut prendre connaissance de ça et adapter un peu sa scénarisation, pour revenir à ce qu'on disait aussi, en fonction des objectifs qui ont été mentionnés pour les apprenants. Donc oui, en tout cas, les inviter à réfléchir pourquoi ils suivent la formation, je pense que c'est tout le monde a y gagné. Ouais.
Pour moi, c'est aussi, dans la même optique, c'est trouver un bon mix. Et peut-être dans ce mix, c'est effectivement combiner son objectif en tant qu'enseignant ou formateur pour le résultat à atteindre et de bien spécifier en fonction des besoins de l'apprenant, mais spécifier soi-même en tant que formateur les résultats à atteindre. Et ensuite, pour la méthodologie, c'est là atteindre les objectifs que peut avoir l'apprenant, ce qu'il souhaite développer. Donc, c'est ce mix à la fois sur résultat en fonction des besoins, mais formulé par le formateur, et puis l'approche, l'angle de la formation, la manière de la vivre, là, vraiment en fonction des besoins de l'apprenant pour qu'il soit pleinement engagé dans l'expérience d'apprentissage. Yo ?
Tout ça, je crois que je serai encore un peu plus nuancé. Je suis pas sûr qu'il faille en tenir compte, oui, évidemment, mais je suis pas sûr qu'il faille se baser et en faire un élément crucial. Du point de vue du formateur, je crois qu'il faut idéalement, communiquer sur ces objectifs avant le moment prévu en synchrone pour éviter toute surprise négative ou de la frustration chez l'apprenant qui va essayer de faire matcher les objectifs de la formation avec ses propres objectifs. Donc, il y a cette étape qui me paraît importante, mais c'est quand même vachement compliqué de partir des objectifs des apprenants eux-mêmes. Je pense qu'il faut faire... Pas une éducation des apprenants, mais les prévenir que le but n'est pas de faire, dans tous les cas et dans la majorité des cas, du personnalisé non plus. Donc le but, c'est de faire en fonction d'eux, dans une certaine mesure limitée, mais surtout de les outiller pour qu'ils deviennent ensuite capables eux-mêmes de répondre à leurs objectifs. Donc leur donner les moyens de rester général et suffisamment général pour leur donner des moyens d'eux-mêmes répondre à leurs objectifs particuliers.
À t'entendre, ça me donne une question pour vous, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à l'hétérogénéité des objectifs des apprenants, et peut-être plus pour Jérôme qui disait oui, il faut les prendre en compte. Quand on a une hétérogénéité d'objectifs du côté des apprenants, comment est-ce qu'on en fait en tant que formatrice ou formateur?
On se débrouille.
Et comment est-ce qu'on les recueille aussi, c'est pas...
Après, c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est toujours quand on pose une question ou qu'on demande un avis, il faut être prêt aussi à recevoir et à pouvoir s'adapter en fonction de l'avis qu'on reçoit. Donc, c'est sûr que c'est se mettre un peu, pas en danger, mais avoir une petite place pour le feeling, l'improvisation aussi, et de pouvoir s'adapter en fonction des réponses qu'on aurait également, parce que ça nous arrive, des formations où il y a 4 objectifs, il y a peut-être 12 participants, et c'est réparti de manière équitable, chacun veut plus cet objectif-là ou cet objectif-là. Donc là, à ce moment-là, on maintient peut-être un peu le scénario qui était prévu également, si on voit, et ça a déjà arrivé aussi, qu'il y a 3 objectifs de formation, et que tous les participants disent, nous, on veut surtout... cet objectif, poursuivre cet objectif-là en suivant le trajet de formation, là, on peut clairement adapter aussi ses activités et sa scénarisation à cet objectif-là.
C'est un minimum dirigé dans le sens qu'il se positionne par rapport à des objectifs.
Mais après, ici, nous, on est un organisme de formation, on ne fait pas du sur-mesure. Ils viennent, ils voient des objectifs d'apprentissage, ils s'inscrivent. Et donc, les objectifs sont déjà définis. Une formation purement sur-mesure, on partirait from scratch. C'est évidemment une autre approche. Nous, ici, on est vraiment sur... ils viennent s'inscrire. Il y a déjà des objectifs qui sont définis et ils peuvent un peu préciser lesquels sont les plus importants pour eux à ce moment-là.
C'est ce que j'allais dire pour moi, ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. L'objectif de l'apprenant, on doit plus le prendre en compte, de mon point de vue, dans le design de la formation et ensuite le transposer aussi dans son marketing pour que les personnes qui ont ces objectifs-là s'inscrivent à cette formation qui a été designée pour leurs objectifs. Et donc, ça doit vraiment se jouer avant que l'apprenant s'inscrive, bien plus qu'après, où l'apprenant arrive avec ses objectifs dans une formation qui a une certaine forme et là, essayer de s'adapter, ce qui est plus difficile.
Ouais. Parce que je pousserais à l'extrême, même dans la réflexion, qu'un apprenant qui s'est inscrit et puis on lui pose la question, parce que il y a... on n'est pas naïf non plus, il y en a qui s'inscrivent sans vraiment lire les objectifs, ou en tout cas, je me suis inscrit sur base du titre de la formation, mais sans vraiment regarder le programme ou les objectifs. Et donc là, on les oblige, en tout cas on leur pose la question, donc ils sont obligés d'y répondre. Quelqu'un qui dit, il n'y a aucun des 3 ou 4 objectifs que je remplis, du coup, je me désinscris, ou je dis, finalement, elle n'est peut-être pas utile pour moi, et moi je préférais avoir cette démarche-là, plutôt que quelqu'un qui force en tout cas son apprentissage.
Dans ce sens-là aussi, et sur l'importance du marketing qui doit inclure, le marketing de la formation qui doit inclure de manière explicite les objectifs qui vont être traités, c'est une manière aussi de donner aux apprenants des outils pour avoir leurs propres objectifs. Je pense qu'ils vont s'inspirer de ce qu'ils vont voir. J'ai pas l'impression qu'on est tous là avec nos objectifs clairement définis en tête. Non, on s'inspire de ce qui est donné et on se forge des petites particularités aux préférences, mais on va piocher, quoi. C'est un petit peu comme ça qu'on fait. Donc, l'importance d'être explicite, ouais.
Parfait. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter sur le fait de s'adapter, peut-être une expérience à partager dans la minute qui nous reste, une expérience à partager sur l'adaptation aux objectifs des participants?
C'est peut-être plus, et on en parlait précédemment, une adaptation à leur contexte. Je ne sais pas, c'est plutôt... j'ai pas d'exemple concret, mais s'ils n'ont pas le temps de préparer quelque chose chez eux, si les jours sont fort rapprochés, ça, on ne va pas demander des choses qui sont, qui ne seront pas possibles, qui ne pourront pas être rencontrés.
Effectivement, on le remarque souvent dans les pratiques de design et de rencontres utilisateurs, c'est qu'ils sont amenés à suivre des formations, parfois avec un matériel, enfin, où on leur demande un matériel qu'ils n'ont pas, avec du temps qu'ils n'ont pas nécessairement, sur des contraintes temporelles et parfois logistiques qu'ils ne peuvent pas assumer. Donc, effectivement, c'est prendre aussi ces objectifs-là et le temps qu'ils ont.
Ouais. Peut-être aussi, allez. Ah, ben voilà, j'ai plus le temps. Voilà.
Oh, peut-être pas, peut-être pas. Pour... On va terminer sur la question.
Si vous voulez savoir, n'hésitez pas à nous poser la question sur Twitter. Mais qu'est-ce que Jérôme voulait dire? En plus, c'était méga important.
Est-ce qu'on peut former sans prendre en compte les objectifs de l'apprenant? Tu peux peut-être glisser ça là-dedans, Jérôme, c'est à toi.
C'est difficile à vraiment me positionner, hein, comme je disais au début.
Ah, on t'a converti, on t'a influencé.
Non, mais j'aurais envie de dire non. Voilà.
Ok. Avec un argumentaire qui était assez poussé.
Et on peut suivre une formation, mais vraiment former, non.
Ok.
Yo. Ouais, moi, je pense qu'on peut ne pas en tenir compte, oui. Il y a toujours c'est plutôt oui, c'est pas un oui franc et massif, mais je pense que oui, on peut, sans déconsidérer évidemment l'apprenant, je crois qu'on peut, démarrer sans connaître ses objectifs.
Je suis lié là-dedans, oui. Pour moi aussi, on peut former sans connaître les objectifs de l'apprenant. Néanmoins, c'est important de designer la formation en fonction de ses objectifs. On passe maintenant à la troisième intervention, celle d'Ahmed Salama. Et d'ailleurs, il y aura deux interventions dans la même intervention, ce qui nous permettra d'aller un peu plus rapidement parce que leur ingrédient est assez proche. Donc, Ahmed Salama de 360 Learning et Aurélien Dorvaux de Sidologie.
Sans réfléchir. Du coup, je ne réfléchis pas. Je dirais un contenu adapté à chacun. Jusqu'à aujourd'hui. T'as l'impression qu'aujourd'hui ça a changé, mais non. Jusqu'à il y a quelques temps, on créait de la formation pour créer de la formation. Aujourd'hui, on a une vision. Moi, j'aime bien l'appeler learner centric. En tout cas, c'est le travail que je fais avec mes clients. Et cette approche qui est basée sur du marketing, tout con. Hein, on fait du customer centric, on fait de la centricity en fait, tout simplement. Il faut qu'effectivement le contenu parte des besoins de l'apprenant au quotidien, plutôt que de créer du contenu dans un objectif de compétence en pensant que ça va s'adapter à tout le monde, alors que c'est faux, tout simplement. Et voilà.
Alors, j'ajoute l'intervention donc d'Aurélien Dorvaux, qui simplifiera peut-être un peu le propos d'Ahmed Salama.
Pour bien former, il faut prendre en compte l'apprenant, c'est-à-dire qu'il faut savoir à qui on s'adresse. C'est surtout ça qui est important, moi, je pense. C'est-à-dire que on peut faire plein de choses avec ou sans formateur, en innovant ou sans innover, etc. Si on a pris la peine de savoir qui est-ce qu'on formait, quelles étaient ses attentes, quel était son profil, et à ce moment-là, on peut véritablement former. Donc, c'est l'adaptativité, un truc avec adaptation.
On voit qu'on tourne autour des mêmes ingrédients, même liés aux objectifs de l'apprenant. Ici, on est plus sur former sans s'adapter à l'apprenant. Et d'ailleurs, pour les auditrices et auditeurs intéressés, je vous renvoie à l'épisode 2 du 4 avril dans lequel nous avions discuté de la formation sans identification des besoins. Mais donc pour notre discussion ici, on va revenir sur cette adaptativité ou le fait de s'adapter non plus aux objectifs des apprenants, mais bien aux apprenants dans leur entièreté. Alors, première question assez large pour vous, Léo, Jérôme, c'est quoi le learner centric?
Ouais, sans réfléchir. Non, mais il y a un problème avec ça, je trouve. Le learner centric, ça donne l'impression de se baser sur chacun. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. On ne peut pas se baser sur chaque apprenant. Je trouve ça. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Je trouve ça trop compliqué. Oui, on n'arrivera pas à démêler les nœuds que ça fera, parce que ça peut partir dans tous les sens. Donc l'idée, c'est vraiment de connaître son audience, mais en la globalisant. Donc, learner-centric, ça veut dire qui occupera le poste d'apprenant dans la formation, quel est-il ? Et en faire, on parlait de marketing, des personas. Donc, on a en gros trois gros profils dans la formation et on va essayer de les rencontrer, mais s'adapter à chacun, ça me paraît tout à fait illusoire. Et si on veut s'adapter à chacun, finalement, on part sur quelque chose de très, un apprentissage très solitaire où on veut que ça nous convienne à nous et du coup, c'est pas la formation où on avance en cohorte ou bien où on avance dans une classe, quoi.
C'est un peu la manière dont je le voyais également. C'est plus que de s'adapter aux besoins, c'est de concevoir en fonction des apprenants et de penser finalement ce dont on a parlé dans les deux premières parties, la scénarisation et les objectifs dans le design de la formation. Pour toi, même définition du learner-centric, Jérôme ?
Mais pour moi, ma vision, c'est si on veut être learner-centric, c'est l'impliquer l'apprenant dès le début, et donc dans la phase même d'analyse, puis même de scénarisation. Alors, il faut évidemment globaliser, parce que faire du personnalisé à 100% individuellement, c'est évidemment compliqué, voire utopique, mais en tout cas avoir une idée de son contexte, en tout cas, et donc pas uniquement les objectifs dont on parlait juste avant, mais quelles sont un peu ses ressources, ses contraintes, à quels outils il a accès, qu'est-ce qu'il connaît déjà, avec qui il peut discuter, quelle est sa marge de mise en œuvre après le principe de formation. Je pense que ça, c'est tous des éléments dont il faut tenir compte même avant de lancer la formation. Dans ma vision de la formation, parce que je pense que c'est Ahmed Salama qui disait, créer de la formation pour créer de la formation, ça dépend évidemment de ce qu'on veut. Hein. Si on veut juste créer de la formation pour créer de la formation, on n'a pas besoin de tenir en compte, de prendre en compte le contexte de l'apprenant. Et donc, il suivra la formation. Maintenant, est-ce qu'il y aura vraiment apprentissage, développement de compétences ? Pour moi, dans ma vision de la formation qui est celle-là, ne pas tenir compte du contexte de l'apprenant, de manière globale, ça me semble difficile.
Et je pense qu'il faut, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut délimiter encore un petit peu plus, parce que son contexte, c'est très vaste. C'est quoi ? C'est ses goûts ? C'est le temps dispo qu'il a pour se former ? C'est son niveau ? C'est encore d'autres choses. Moi, je trouve ça important d'être en phase avec son niveau, mais peut-être moins avec ses goûts, ou l'inverse, mais on ne peut pas tout prendre en considération.
Mon expérience, c'est en tout cas les impliquer ou les prendre en compte, ça ne veut pas dire les suivre à 100% tout le temps, mais c'est en tout cas les récolter et voir après ce qu'on en fait. Et tout n'est pas toujours possible. C'est dire, effectivement, peut-être des fois, c'est un moment, c'est ses préférences, ses goûts, mais dire, là, ce n'est pas possible d'en tenir compte pour des raisons X ou Y, parce que les objectifs de développement de compétences sont ceux-là. Donc, mais en tout cas, en les récolter, en prendre connaissance.
Et ça pose toujours la question à laquelle je n'ai pas de réponse. Comment est-ce qu'on peut avoir trouvé ces informations ? Et est-ce qu'on doit toutes les trouver ? Donc, comment ? J'ai des petites idées, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur le sujet ?
Moi, j'essaye en tout cas d'impliquer les apprenants eux-mêmes dès le début, et dès la phase d'analyse. On définit un objectif avec un commanditaire, avec un prestataire ou autre. Demander aussi à l'apprenant, est-ce que ça va vraiment répondre ? Alors, ça vient des limites, parce que c'est une ou deux personnes, et donc ce n'est pas sur un groupe, et donc ça peut être très lié à la personne elle-même qui est impliquée, et peut-être qu'on aurait impliqué une autre personne, ça aurait une autre influence, mais en tout cas qu'il y ait une vision plus réelle de son contexte d'apprentissage que nous.
Nico, le learner-centric pour toi ?
Oui, comme je le disais, c'est s'adapter aux besoins, plus que s'adapter aux besoins, c'est de concevoir en fonction des apprenants, et donc ça c'est aussi important. Je pense que dans notre propos, certains ou certaines pourraient entendre le fait que il faut s'adapter aux apprenants, il faut concevoir en fonction d'eux et surtout de leurs besoins. Pas forcément. En fait, il faut écouter leurs besoins et voir comment utiliser ceci en formation. Un exemple et un petit partage d'expérience, une plateforme qui va bientôt sortir, dont je crois que j'avais déjà parlé dans un épisode précédent. C'est une plateforme de formation aux soft skills à destination des ouvriers. La première demande de ce projet-là et de cet organisme de formation, ça a été de créer un dispositif e-learning pour former des ouvriers aux soft skills. En allant rencontrer les ouvriers, ils n'étaient pas très intéressés à se former sur les soft skills, ils n'avaient pas le temps de se former en e-learning, ils voulaient se former uniquement sur des aspects techniques. Donc si on avait uniquement écouté les besoins de ces ouvriers, on se serait dit la formation, ça ne sert à rien, ça ne répond pas à leurs besoins, ils ne la feront jamais. Mais on a écouté ces besoins et puis on les a transformés pour repenser le dispositif et pour là développer un média à destination des ouvriers qui va les aider à mieux gérer leur quotidien. Donc, on ne dit pas qu'on les forme aux soft skills, on leur dit qu'on va les aider à discuter avec leurs collègues, à mieux gérer leur temps. Et donc, on va partir de leurs problématiques de terrain pour réussir à les former. Donc, c'est une dimension assez importante de ne pas nécessairement s'adapter aux besoins, mais d'écouter le besoin pour adapter la formation de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous partagez aussi ça.
Oui, ouais. C'est quelque part s'adapter moins à l'apprenant lui-même qu'à sa réalité ou à la réalité qu'il vivra quand il sera en position de mobiliser ce qu'il aura appris.
Mais je comprends que ça puisse être difficile. Et donc, peut-être l'expérience de Jérôme, qui correspond aussi à celle de beaucoup de nos auditrices et auditeurs, c'est en organisant une formation, comment est-ce qu'on arrive à essayer de s'adapter à des si grands nombres, des si grandes cohortes et de concevoir des formations adaptées plus ou moins aux besoins.
C'est pas adapté plus ou moins, comme je disais, c'est impossible de s'adapter à 100%. Je pense qu'il faut faire le maximum. Et donc là, dans l'analyse des contraintes et autres, ça fait partie. On sait que les personnes vont suivre et qu'on a un format. Et donc, on a notre format unique de formation. C'est une contrainte. C'est pas idéal pour l'apprenant. Mais donc voilà, c'est comme on doit fonctionner dans ce cadre-là. Et donc, qu'est-ce qu'on sait faire dans ce cadre-là pour s'adapter, mais sans... Comme tu disais, et comme je disais aussi, il faut en tout cas récolter les besoins et voir qu'est-ce qu'on sait en faire et, ou pas, hein, et quelles sont un peu les limites. Je pense aussi à une formation pour manager, par exemple, avant Sephora, où là, c'était plus sur les aspects organisationnels, où on avait un certain nombre de workshops qui étaient prévus. Mais la discussion, c'était de se dire... Est-ce qu'on les fait tous sur la même semaine, hein, il y en avait 4 ou 5, ou est-ce qu'on les fait une fois par mois, une fois par semaine, enfin, et en fait, impliquer les personnes et juste savoir, dans votre planning en tant que manager, quelle est la meilleure organisation qu'on peut avoir, et c'est simplement ça, c'est aussi s'adapter au contexte de l'apprenant, et finalement, ça a été de faire une demi-journée pendant X semaines d'affilée. Mais donc, on aurait pris la même formation, on l'aurait condensé sur une semaine, on n'aurait pas eu le même impact parce que ça ne se serait pas mis dans l'organisation. Et donc, c'est aussi des fois simplement ça au niveau organisationnel, voir quelle est leur réalité.
Donc, c'est impliquer la...
Allez,
à la chacun donner, son tour. Si vous voulez savoir le propos de Lio,
envoyez un SMS au numéro Minitel, payant suivant. Ah non, ça va faire de nous des vieux.
Ça montre l'intérêt de nos épisodes habituels où on prend le temps de discuter. Ici, on est sur un épisode de rentrée, on condense pas mal les sujets. Si vous nous découvrez avec cet épisode, sachez qu'habituellement, on prend bien un sujet dont on discute, parfois trop longtemps, mais donc pendant une petite heure, tous les trois. Et donc, on arrive à la conclusion de cette intervention-ci, de ces deux interventions. Est-ce que pour vous, Lio et Jérôme, on peut former sans être learner-centric, adaptatif même?
Dans ma vision de ce qu'est la formation, non.
Okay. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Moi, il faut le prendre en grande considération avec toutes les nuances qu'on a évoquées précédemment. Donc, on peut plutôt pas former sans l'être.
Pareil, pour moi, on peut pas former sans s'adapter à l'apprenant. Et d'ailleurs, on n'a pas, enfin, les mots-clés sont sortis, mais on a peu parlé de l'aspect technologique adaptatif, enfin apprentissage adaptatif, adaptive learning, pardon. Et
on en reparlera dans un épisode ultérieur. Ouais,
on fait la liste, c'est la checklist des épisodes futurs. On termine cet épisode, ou du moins cette partie de l'épisode, avec une dernière intervention, celle d'Evan Fribourg de Domocio, qui nous donne, pour terminer, donc son ingrédient essentiel en formation.
La mesure des impacts à terme. S'assurer que ce qui a été fait en termes de formation ait eu un intérêt et que le temps qu'a passé la personne à concevoir la formation, l'apprenant à suivre la formation est réellement du temps qui est bien investi.
Alors les gars, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire mesurer l'impact des formations? Je ne suis pas sûr qu'on ait, même en un épisode, on puisse traiter la question, mais là, en quelques minutes, qu'est-ce que ça veut dire l'impact des formations?
Mais pour moi, c'est s'assurer que les objectifs de la formation ont été atteints. Mais c'est, voilà, ça exige évidemment que les objectifs étaient bien définis aussi. Mais voilà, quels sont un peu les critères de succès d'une formation.
Ouais, dans ce sens-là, je suis assez d'accord. C'est se donner les outils pour être capable d'améliorer ce qui a été fait. Donc, d'améliorer cet impact. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment voir à quel point ça a été utile pour les participants et ce qui a plus ou moins fonctionné, ce genre de choses-là. Donc, c'est dans l'optique d'une nouvelle itération encore plus impactante.
Donc, vous utilisez l'évaluation des fins d'amélioration de la formation et puis de mesurer un peu d'impact au niveau des objectifs. Pas essayer de mesurer le transfert sur le terrain, le développement des compétences professionnelles.
Ah si, mais ça, c'est pour ça que je disais, ça dépend comment les objectifs sont rédigés. Hein. Est-ce que l'objectif de la formation, c'est de passer un bon moment, hein? Et alors à ce moment-là, ben, on a une petite happy sheet en disant, est-ce que c'était intéressant et est-ce que le café était bon? Donc là, on peut le mesurer comme ça, si c'est ça l'objectif. Si l'objectif, c'est pouvoir utiliser telle compétence sur son lieu de travail, ben, mesurer l'impact, c'est de mesurer qu'il y a eu ce transfert-là. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Je veux qu'on passe, chez nous en tout cas, de « c'était intéressant » à « je l'ai utilisé ». J'ai toujours un peu de mal quand quelqu'un me dit, je lui demande comment c'était la formation, il me dit « c'était intéressant ». Ok, c'est une première étape, mais est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que c'était impactant? Parce que c'était intéressant, ça reste à « ok, j'ai suivi ma formation ». Donc pour moi, vraiment, l'impact, c'est ce transfert, cette utilisation des connaissances sur le lieu de travail. Et nous, en tant qu'organisme de formation, c'est assez compliqué de mettre ça en place parce que les gens sortent de leur contexte professionnel, en tout cas pour venir suivre une formation, et puis après retournent dans leur environnement professionnel pour les mettre en œuvre. Et donc nous, on a moins de contrôle, évidemment, sur les mesures. Et donc, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer de mesurer. Et pour l'instant, la seule limite, c'est leur demander, eux, à la fin de la formation, bah, est-ce que vous vous sentez suffisamment confiant, outillé, armé pour mettre en place ça sur le lieu de travail. Donc c'est du déclaratif, mais ouais, je pense que pour moi c'est ça vraiment l'enjeu, c'est pouvoir mesurer après dans quelle mesure ça a eu vraiment un impact et qu'il y a eu une modification de comportement, une utilisation, une activation de ces compétences sur le lieu de travail et aller plus loin que c'était intéressant.
Alors tu nous fais un sacré teasing, on a compris que pour l'instant c'était du déclaratif. Vers quoi vous vous dirigez en tant qu'organisme de formation pour réussir à aller chercher plus d'informations sur l'impact des...
Ben, on est en pleine réflexion justement de voir quels sont les indicateurs qu'on pourrait utiliser hors le déclaratif. Je crois très fort aussi à l'implication des managers là-dedans aussi, dans la mesure de l'impact des formations, et donc voir dans quelle mesure on peut les utiliser aussi. Et puis en fonction de la thématique, il y a peut-être d'autres critères aussi. Hein, voilà, quelqu'un qui se formait pour changer de poste, ben voilà, est-ce qu'il a effectivement changé de poste aussi? On a aussi... Ben, tout ce qui est... Alors, on a une grosse offre aussi sur les chercheurs d'emploi, ben, est-ce qu'ils ont vraiment trouvé un emploi? Donc, c'est des indicateurs aussi qu'on peut utiliser pour voir l'impact qu'ont eu nos différentes formations. Mais c'est... en tant qu'organisme de formation, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont dans l'environnement de travail même et on n'y a pas toujours facilement accès également.
C'est très lié avec ce dont on parlait précédemment, avec le côté learner-centric. Finalement, cette partie-là, elle arrive aussi en post-formation, même si ça fait peut-être partie de la formation elle-même, il faut voir dans quelle mesure ce qui a été appris est mobilisé dans la réalité professionnelle, si c'était ça l'objectif, de la personne qui est venue en formation. Mais ça me paraît hyper compliqué à mesurer. Vous êtes en réflexion là-dessus, moi je ne l'ai pas encore vraiment beaucoup été, ça me paraît chaud, quoi.
Et de ce point de vue-là, j'ai une petite question peut-être... Je ne sais pas, ce n'est pas touchy du tout, mais on mobilise très peu souvent le formateur ou la formatrice par rapport à cette mesure d'impact. Pourtant, j'ai l'impression qu'il ou elle peut avoir déjà un avis en donnant la formation, de voir comment certains ont évolué entre le début d'une formation, la fin d'une formation, voir peut-être faire un plan de développement pour la suite, pour la personne, pour voir ce qu'elle doit continuer à améliorer suite à la formation, etc. Et ça, cette évaluation des apprentissages et des impacts de la formation, ben en formation professionnelle en tout cas, parce qu'à l'université ou à l'école, ben c'est le rôle des enseignants, mais en formation professionnelle, c'est peu le cas. Pourquoi on utilise si peu, ou on demande si peu aux formateurs et formatrices de faire ce travail-là?
Pourquoi on le demande si peu? C'est difficile, il y a une part, à mon avis, un peu historique, culturelle, les rôles du formateur centrés aussi sur le contenu, et cette approche orientation aussi, apprenant dont on vient de parler et autres, ben, commence un peu à arriver, donc je pense que l'évaluation, à un moment, va suivre, parce que personnellement, moi, j'ai une dent un peu contre l'évaluation à chaud, hein, qu'on utilise beaucoup, surtout en formation professionnelle, vite fait à la fin, mais où on ne pose pas des questions pour savoir si la formation a eu un impact, c'est juste si elle s'est bien déroulée. Hein, et donc, même en interne, chez nous, je me bats un peu avec ça aussi. Et d'ailleurs, en assistant à Learning Technologies à Londres, il y a un orateur qui disait, en fait, le questionnaire, le fameux questionnaire Happy Sheet, hein, évaluation à chaud, devrait contenir qu'une seule question, qui est, est-ce que, dans quelle mesure vous vous sentez suffisamment confiant, outillé, pour mettre en place ces compétences sur votre lieu de travail? Et ça devrait être la seule question qui devrait être posée dans l'évaluation à chaud. Moi, je crois qu'il y a de l'évaluation à froid qui peut être faite aussi, justement, pour mesurer ces impacts et ces transferts sur le lieu de travail. Et utiliser le formateur dès le début aussi de la formation. Et ça se prépare dès le début de la formation aussi, en disant quels sont mes objectifs, qu'est-ce que vous attendez, quels sont vos critères de succès aussi qu'on peut avoir. Donc, je pense que le formateur, tout au long déjà du trajet de formation, peut préparer cette mesure de l'impact aussi. Tu parlais de plan de développement, plan d'action. Et voilà, pendant la formation, développer justement ce plan d'action, qu'est-ce que vous allez mettre en place sur votre lieu de travail, et puis après évaluer, ben voilà, vous aviez listé, je ne sais pas moi, 5-6 actions, est-ce que vous les avez mises en place ou pas? C'est aussi évaluer l'impact de la formation.
Oui, clairement. Et il y a un indicateur que j'aime bien utiliser dans cet impact des formations, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Mmh. C'est amener la personne à évaluer son sentiment d'efficacité personnelle par rapport aux tâches, aux compétences qu'elle a développées, faire une première mesure en début de formation et ensuite évaluer ça à la fin de la formation, voire même quelques semaines, voire quelques mois après la formation. Et donc, de ce point de vue-là, ça peut être un bon indicateur qui va montrer l'évolution de sentiment d'efficacité, qui est parfois même plus prédictif de comportement futur que l'efficacité réelle. Donc ça, c'est un des indicateurs qui peut être mobilisé. Mmh. Peut-être aussi demander aux participants la perception de l'atteinte des objectifs d'apprentissage de leur point de vue, pas juste du point de vue du formateur, mais vraiment de leur point de vue. Et c'est maintenant le temps de vous poser la question de conclusion. Est-ce qu'on peut former sans mesurer les impacts de sa formation, Lio?
Bah oui, je pense que c'est possible. C'est pas idéal. Oui, c'est pas optimal. On n'est pas sûr que ce sera de la pertinence de la formation du coup, mais oui, c'est possible.
Pour toi, Jérôme?
Dans l'absolu, c'est possible, mais c'est dommage. Parce qu'on ne sait pas si du coup notre formation a eu succès, a réussi ou pas. Donc oui, on peut l'organiser, mais sans savoir si on a atteint nos objectifs. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc je dirais, si vraiment on veut donner du sens à la formation, ça me paraît compliqué de le faire sans mesurer ses impacts.
Effectivement, pour moi, c'est un peu le même avis. Hein. Et d'ailleurs, je pousserai un peu en disant qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de formations qui sont données sans une réelle mesure des impacts de la formation. Et tout le monde s'en porte très bien. Donc oui, c'est possible de former sans mesurer ses impacts. On termine maintenant cet épisode avec vos recommandations, un site, une vidéo, une lecture ou tout autre type de ressources qui peut inspirer nos auditrices et auditeurs. Jérôme, vas-y.
Ouais. Ben moi, je partage un petit bouquin qui m'a inspiré de Gilles Daoust et qui s'appelle « Management sans conseil pour les managers qui veulent travailler mieux ». Et donc, en tant que voilà, manager, ça m'intéressait aussi par rapport à un partage d'expérience, parce que ce bouquin, c'est vraiment un petit partage d'expérience avec 100 petits conseils basé sur l'expérience donc de Gilles Daoust, hein, qui est le CEO de Daoust, Title Media et autres. Et au-delà du contenu qui m'intéresse, je trouve le format assez intéressant parce que en fait c'est vraiment sans conseils, mais vraiment c'est voilà en une phrase ou deux phrases pour chacun des conseils. Donc c'est très épuré, ça se lit très vite.
Le bouquin fait 3 pages.
Le bouquin du coup fait 100 pages. Mais donc voilà, vous pourrez voir. Mais donc c'est chaque fois un petit conseil. Ça se lit très vite, ça inspire et rapidement pour faire le tri en disant ok, ça peut-être je le fais déjà ou ça je pourrais le mettre en place. Et donc je trouve que c'est on parlait d'impact. En tout cas, c'est un format chez moi qui a eu pas mal d'impact. Donc voilà, je pense que c'est à inspirer au niveau du contenu si vous êtes manager ou vous avez des tâches de management. Et au niveau du concept, dans d'autres domaines, pourquoi pas, je trouve que c'est bien foutu, quoi. Donc voilà, ça s'appelle Management Gilles Daoust, et on vous mettra évidemment tout ça dans la description de l'épisode.
Parfait. Lio.
J'en ai deux cette fois-ci. C'est une un petit peu dans le thème, comme évoqué en début d'épisode, et puis encore en cours, je me lance dans des ateliers de design thinking. Et du coup, je trouve un chouette bouquin parmi d'autres, C'est le Kit du Design Thinking. C'est un bouquin de 2021 de Michael Lerick et Patrick Link. Et aussi Larry Leffer, et puis ça n'en finit pas, il y en a encore un dernier. Hakim Schmidt pour les illustrations. Voilà. Pourquoi ce bouquin-là plutôt qu'un autre ? Je ne pense pas que ce soit plutôt qu'un autre, c'est parmi d'autres, mais il est très pratique dans son approche parce que c'est vraiment des techniques exposées en 2-3 pages sur la manière de les mettre en place, le temps que ça prend, à quoi ça sert, à quelle étape elle intervient. Donc c'est très visuel, donc tout ce que j'aime bien. Et l'autre qui n'a un petit peu rien à voir, mais je voulais rendre hommage à cette publication malgré tout, c'est aussi un bouquin paru fin 2021. C'est en anglais aussi. C'est Warrus, je ne sais pas si ça vous parle, Warrus, The Infrastructure and Aesthetics of Piracy. En gros, c'est un bouquin scientifique sur le monde du piratage, donc du piratage dans le sens partage, comme dans l'ancien temps, on partageait des films, des MP3 et tout ça, des applications. Ben, c'était en fait très structuré il y a une vingtaine d'années, et ça parle de cette période-là, des années... ce n'est quoi, il y a 20 ans, il y a fin des années 90, début des années 2000. Et ça m'a rappelé quelques chouettes souvenirs. Et le fait que ce soit scientifique, ça consigne aussi un savoir qui n'était que sous forme de souvenirs, donc c'est cool. Allez voir ça.
Merci.
Petit, juste, je rajoute encore un tout petit mot, c'est le bouquin Warrus.
Non, c'est très tard, Léon, tu exagères.
On peut l'acheter sur, ils le vendent par Amazon, mais il est aussi téléchargeable tout à fait officiellement en format PDF, évidemment, j'ai envie de dire.
Et donc, le lien sera dans la description. Moi, je vous partage aussi, finalement, un ouvrage. C'est un ouvrage qui m'a retourné le cerveau cet été. C'est Digital Minimalism en anglais, ou Réussir grâce au minimalisme digital, moins de technologie, plus de concentration en français. Un ouvrage donc de Cole Newport. C'est un auteur qui propose une philosophie minimaliste de l'usage du numérique. Et donc, sa définition, c'est une philosophie de l'usage des technologies dans laquelle vous concentrez votre temps passé en ligne, ou du moins avec des outils numériques, sur un petit nombre d'activités soigneusement choisies et optimisées, très propices à ce qui est important pour vous, et vous renoncez d'un cœur léger à tout le reste. Et donc, c'est vraiment, dans son ouvrage, ce qu'il explique, c'est un peu ce coût-bénéfice, du bénéfice que va apporter une application, un outil comme une montre connectée ou autre chose, par rapport au coût que ça va avoir en termes de notification, de privation de solitude, et donc d'être tout le temps connecté, de capacité à se concentrer, etc. Et vraiment, de mon côté, j'ai adopté jusqu'ici une philosophie parfois un peu maximaliste, à tester beaucoup d'apps, à regarder ce qui sort, à scroller sur Twitter un peu trop, à checker mes flux RSS. Et ça m'a pas mal retourné le cerveau pour réduire ça, mais aussi avoir une philosophie un peu minimaliste, au-delà des aspects numériques, de se poser la question de ce qui est essentiel, au-delà des applications simplement, dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle, voire dans des formations, qu'est-ce qui est essentiel, au lieu d'essayer de toujours en mettre plus, peut-être, vraiment en mettre moins, mais mieux. Et donc là, je suis en train de lire d'autres livres sur le sujet, mais c'est celui-là qui a un peu déclenché la réflexion sur, en tout cas, le sujet du numérique. Donc, je vous le conseille vraiment, cet ouvrage Digital Minimalism.
Et j'imagine que dans le minimalisme digital, il y a le podcast C'est quand la pause.
Oui, ça y est, on peut continuer à écouter.
Voilà, évidemment.
ça fait partie. Juste ce podcast-là, il le cite. Dans l'ouvrage date de, je crois, 2017 ou 2018. Mais il amène aussi à réfléchir à sa consommation de podcasts. Et moi-même, j'avais ce travers, dès que j'étais seul ou dans un trajet, à mettre mes écouteurs, à écouter des podcasts, toujours consommer. Et donc, juste retrouver effectivement un peu de solitude,
plaisir du silence
avec soi-même. Ouais, du silence, et pas être juste seul sous la douche et avoir des idées à ce moment-là, mais être seul à d'autres moments pour avoir des idées à d'autres moments.
D'ailleurs, on va se taire pendant 2 secondes pour donner un peu de silence à nos auditeurs.
Non, bah, alors, voilà. On surtout, nous n'avons pas réussi.
Alors, on va terminer pour leur laisser un peu plus de solitude par la suite, et surtout pas trop dépasser par rapport au timing qu'on va essayer d'adopter dans cette saison. Je vous remercie à nouveau pour vos recommandations, et on termine peut-être avec un teasing sur les prochains épisodes. On parlait de cette saison 2. Jérôme, Lionel, qu'est-ce qu'on va entendre dans les prochaines semaines?
J'en ai parlé un peu au début d'épisode. Hein. On va avoir un épisode prochainement sur tout ce qui est gamification. Hein. On l'entend et on le voit un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière et qu'est-ce que nous, on en pense de l'utilisation de la gamification et du terme gamification dans le monde de la formation? On y reviendra prochainement.
Et en octobre, on aura un petit épisode sur l'apprentissage adaptatif dont on n'a pas assez parlé tout à l'heure. On lui consacre un épisode entier sur, en gros, les bienfaits, avec guillemets, de l'informatique et des automatisations pour l'apprenant, pour l'apprentissage, pour la sélection des contenus, etc. Rendez-vous en octobre.
On commencera très vite après ces épisodes avec notre premier épisode avec un invité, mais on vous laissera découvrir ça par la suite. On en reparlera un peu plus par la suite. On vous expliquera également comment interagir avec nous en amont des épisodes. En attendant tout ça, on vous invite déjà à partager donc cet épisode si celui-ci vous a plu, à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et à ne pas hésiter à interagir avec nous sur Twitter grâce au hashtag CQLP. Bonne rentrée à toutes et à tous pour celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés ou qui sont en plein dedans. Portez-vous bien. Au revoir Léo, au revoir Jérôme. À bientôt, à dans 2 semaines.
Salut tous les deux, ça fait du bien de retrouver ces petits rendez-vous habituels. À bientôt.
À bientôt. Ciao.